Pauline Pucciano, La cité hantée, partie 2, chapitre 5, entretien. Eleanor avait invité Ruben à venir faire le bilan de ses observations. Et ce dernier, conscient qu'il ne serait pas le bienvenu sous le toit de Keller, avait fait en sorte de venir un jour où celui-ci était notoirement occupé. Il se présenta donc en fin de matinée. Eleanor ne l'attendait pas particulièrement, mais elle avait pris l'habitude de recevoir toutes sortes de solliciteurs à cette heure creuse. Les gens venaient lui demander conseil, parfois lui apporter un cadeau, ou la charger de transmettre une requête aux autorités de la cité. Le gouvernement provisoire, en effet, ne se réunissait presque plus et ne prenait plus de décisions, et les élections, qui s'organisaient avec difficulté, ne devaient avoir lieu que 2 lunaisons plus tard. Artus était fort occupé à bâtir une tour avec des petits cubes d'albâtre et de pierres colorées. Il semblait particulièrement concentré sur sa tâche, qu'il recommençait inlassablement, et Eleanor ne pouvait s'empêcher d'y voir une allégorie du peuple d'Albâtre, cherchant à tâtons l'architecture idéale de la cité et la mettant à bas pour mieux la recommencer. « Ruben, » dit Eleanor en se levant et en faisant un rapide salut protocolaire. « Eleanor, » répondit-il sur le même ton. « Votre demeure est charmante, un peu excentrée, mais d'une grande élégance. Cela doit vous changer des lambris grossiers de la frontière. « Êtes-vous venu pour me parler de mon déménagement ?» demanda-t-elle très poliment. « Non, bien sûr. J'ai été assez vivement remerciée par votre compagnon, mais je souhaitais malgré tout faire le point avec vous à propos d'Artus. Prenez un siège, je vous prie. » Artus leva la tête de son jeu et salua distraitement l'ancien chancelier, sans toutefois se lever. « Artus, tu devrais te retirer pendant que nous parlons, ta mère et moi. Pourquoi ?» demanda-t-il. « J'ai déjà entendu ce que tu voulais lui dire. »« Votre précaution est inutile, » intervint Eleanor. « On ne garde pas un secret avec Artus. »« Soit, comme vous voudrez. Je confirme, bien entendu, tout ce que vous m'avez dit au sujet de son utilisation intuitive de l'esprit. J'ai tenté d'affiner les observations et de procéder à une sorte de classement des applications qu'il paraît maîtriser. « Le verbe, je suppose, » suggéra Eleanor. « En effet, c'est l'une des plus apparentes. » Il est capable d'utiliser le verbe et également d'y résister, ce qui est relativement inhabituel chez un enfant de son âge, et franchement exceptionnel chez un enfant qui n'est pas passé par les bancs de la haute école. L'avez-vous éduqué d'une quelconque manière ? Non, j'ai respecté la consigne de non-utilisation de l'esprit. Mais ses aptitudes ne s'arrêtent pas là. Il paraît également capable d'utiliser l'esprit pour discipliner ses émotions, par exemple sa peur, mais ne semble pas capable de l'utiliser pour dominer sa souffrance physique. Il manifeste en outre des capacités spirituelles spéciales qui ne font pas partie de mon domaine d'expertise. Comme, vous l'avez dit vous-même, la lecture des pensées et aussi ce que j'appellerais la perception de l'invisible. Que voulez-vous dire? Ce que nous faisons lorsque nous projetons notre esprit en un lieu pour le sonder, cette activité semble chez lui comme une seconde nature. Elle est... « Constante. » Eleanor détourna le regard et réfléchit un instant. Artus était en train de s'appliquer à fabriquer une arche avec ses cubes, et la courbure n'était pas facile. « J'ai également découvert autre chose, une chose que vous eussiez préféré que j'ignore, je suppose. » Eleanor tourna vivement les yeux vers lui. Il était là, cauteleux et très calme. Sa courtoisie n'avait eu pour but que d'arriver à ce point précis de la conversation, afin de la prendre en traître. Il venait monnayer une information. « Je vous écoute. »« Il sait pour nos frères, maman. »« Nos frères ? C'est le tien qui a emporté le mien, n'est-ce pas ?» Eleanor fixa durement le chancelier. « Jouez carte sur table, » dit-elle. « Très bien. Vous ne voulez pas, pour une raison que je puis très bien me figurer d'ailleurs, que cette information devienne publique. Vous savez combien elle ferait cancaner la ville. On vous plaindrait, c'est sûr, mais on vous blâmerait aussi. » Pourquoi avoir tu ce détail? Étiez-vous de mèche avec votre frère? Votre survie, votre réussite à la Révolution, la disparition de Sornard, était-ce le prix de votre premier-né? La ville est-elle construite sur ce marché de sang? Eleanor fulminait. Comment osez-vous? Je n'ai jamais passé de marché. Ce fanatique m'a arraché mon fils alors que j'étais mourante. Non, il lui a d'abord ordonné de me déchirer. « Je vous crois, ma petite, je vous crois, mais d'autres ne vous croiront pas. » Artus avait quitté ses cubes et vint auprès de sa mère, sur laquelle il apposa ses mains comme pour la calmer. Elle prit une inspiration profonde et se reprit. « Maman, dit Artus, c'est Ruben et pas toi qui as passé un marché avec les méchants. » L'ancien chancelier, qui affichait jusqu'ici une mine faussement embarrassée et compatissante, se mit à blêmir. « Quelle sorte de marché, Artus ?» demanda à Eleanor d'une voix blanche. Artus ferma les yeux. « Une liste de gens à tuer. » À Eleanor sentait la rage grandir en elle comme un parasite énorme dévorant son cœur. « En échange de quoi ? » interrogea-t-elle. « Je ne sais pas, maman. Un livre. » « Merci, Artus, merci mille fois. » Ce fut avec un visage parfaitement maîtrisé et calme qu'Eleanor leva les yeux vers Ruben. « Vous avez sur la conscience la mort de nombreuses personnes, chancelier, parmi lesquelles se trouvaient des amis très chers, des amis à moi et à Keller, des apostats qui avaient instruit l'armée du soulèvement, et tous les spiritualistes. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Partez avant que ma colère ne déborde. » À travers les larmes de colère qui jaillissaient de ses yeux gris, elle vit la silhouette du vieil homme se lever et partir. Il n'ajouta pas un mot. « C'est un scorpion, dit-elle. « Regarde, maman, j'ai réussi !» Au pied de l'enfant, les cubes colorés formaient une belle arche courbe, soutenue en son milieu par une clé de voûte d'albâtre. À Eleanor, qui ne pouvait encore parler, le serra dans ses bras avec force. « La deuxième personne est beaucoup plus gentille, » dit Artus distraitement. « Que veux-tu dire ?» Elle se retourna alors pour vérifier l'entrée, juste à temps pour constater que la jeune Irène, avec son ventre irritant, était quasiment sur le seuil. Elle n'était pas vraiment jolie, avec une bouche trop grande et des yeux trop rapprochés. À Eleanor fit luire un instant sa pierre frontale, afin de recouvrer totalement son calme, et lui présenta un visage cordial. « Tu es en colère, à Eleanor, » lui dit la jeune fille très doucement, en guise de salut. « Ce n'est pas contre toi. Ce n'est pas seulement contre moi, mais c'est aussi contre moi. » À Eleanor dut reconnaître qu'elle disait vrai. La seule idée de Keller dans ses bras, tout amnésique qu'il ait été, et toute laide qu'elle parut, la mettait en fureur, et la pensée de l'enfant encore bien davantage. Rien que sa façon de parler, très calme et toujours par énigme, exaspérait en ce moment sa colère. « Que me veux-tu, Irène ? » demanda-t-elle un peu rudement. La jeune fille, sans attendre une quelconque invitation, entra dans le péristyle et choisit un siège. « Bonjour, Artus, » dit-elle, sans répondre à Eleanor. L'enfant quitta ses jeux et vint spontanément près d'elle, familièrement, avec une sorte de proximité qui surprit sa mère. « Bonjour, Irène, mère de ma sœur. » Irène sourit et toucha le front d'Artus d'un air grave. « Quel âge as-tu ? » ?
« 3 ans. »
« Je n'ai pas connu ton père, Keller. Je n'ai connu que le sang-mémoire, que Naïma et moi avons retrouvé, dans le carnage de ma cité, accroché au cadavre d'une de mes compagnes, une jeune femme brune, avec de longs cheveux comme ceux de ta mère, enceinte, presque à terme. » À Eleanor fut saisie à cette évocation et retint ses questions. La colère était déjà en train de refluer en elle. « J'ai toujours su que le sang-mémoire était devenu fou par amour pour une femme et l'enfant qu'elle portait. Je n'ai partagé avec lui que des instants en dehors de sa vie. « Naïma, » murmura à Eleanor, « je l'ai connue. Elle m'a enseigné tout ce qu'elle pouvait avant de mourir. Elle était une donneuse. Elle a sauvé les enfants lorsque Sornar est arrivé. » À Eleanor eut un frisson en songeant à son unique rencontre avec le maître sombre. « Et les autres, n'ont-ils pas lutté ? Ils ont lutté en transe collective, mais cela n'a pas suffi. Le pouvoir de Sornar était déjà très grand avant. Avant ? Tu penses que ce massacre a pu le fortifier ? Naïma pensait qu'il cherchait quelque chose dans le village, et nous savons que la bibliothèque a brûlé. À Eleanor réfléchit un instant. Le chancelier avait fait un marché avec Sornar et lui avait donné un livre, mais quel rapport cela pouvait-il avoir avec la bibliothèque des spiritualistes ? C'est de cela que je suis venue te parler à Eleanor, et non du sang-mémoire et de ses œuvres dans mon ventre. Parle, je t'écoute. Je n'ai aucun crédit dans la cité, on me tient à la marge. Pourtant je perçois des choses que vous ne percevez pas, et je sais des techniques que vous ignorez. La cité a besoin de moi pour survivre, et je désire qu'elle soit l'héritière de la culture de mon peuple. Mais je ne sais où m'adresser, car mon langage sonne ici comme celui d'une folle ou d'une simple d'esprit. « Je t'écoute, » dit Aélénor plus doucement. « Je comprends ton langage. »« Je l'espère. Il y a quelque chose dans la cité. » »« Oh, » dit Artus, qui n'avait rien perdu de la conversation. « Toi aussi, tu le sens ?»« Oui, Artus, et tu dois être très sensible à l'esprit pour le percevoir. » « Il me veut du mal, » gémit-il. C'est une présence diffuse, erratique, mais puissante, qui semble gagner en force à mesure qu'on se rapproche du centre de la cité, dit Iraine. « Je l'ai perçu aussi, » dit Aélénor, « mais pas ici, quand nous étions dans les galeries souterraines. »« Au cœur d'Albâtre, » dit Iraine, « un esprit omniprésent et non humain. »« Et méchant, » ajouta Artus. Les deux femmes se tournèrent vers lui, et ne purent s'empêcher de sourire malgré la gravité de leurs propos. Y a-t-il un moyen de défense contre cet esprit étranger? Je ne sais pas. Il faudrait que tout le monde soit entraîné à la transe collective, et peut-être alors pourrions-nous faire barrage. Mais je ne vois que gens ignorants dans cette cité d'Albâtre. La richesse des palais et des tables masque la pauvreté des esprits. Même ceux d'entre vous qui savaient utiliser un peu l'esprit en ont perdu l'habitude, et les autres n'ont même pas envie d'apprendre. La cité est sans défense et personne ne semble s'en soucier. Aélénor acquiesça sans parler. Les enfants doivent être rassemblés et apprendre le plus possible. C'est à leur âge qu'on apprend le plus rapidement. Les anciens utilisateurs doivent former ceux qui ne savent pas. Je dois partager mes techniques de transe collective, mais tout cela doit être décidé, accepté, organisé. Je comprends, Iraine, et je t'aiderai. Est-ce urgent ? Il n'y a rien de plus urgent que de préserver notre avenir. J'irai voir Aumont dès aujourd'hui. Je saurai me montrer persuasive. Et Artus, ne faut-il pas l'aider à développer son potentiel et à maîtriser ses perceptions? Que proposes-tu? Je pourrais le prendre avec les enfants qui sont sous ma garde. Il apprendrait à donner un sens à ses dons. Je ne veux pas te le confier entièrement, dit simplement Aélénor. Mais s'il le souhaite, il pourrait passer une partie de ses journées avec vous. Artus ne disait rien, absorbé dans une pensée profonde. « Qu'en dis-tu, Artus ?» demanda sa mère. « J'ai peur, maman. »« Peur des autres enfants ?» dit Rain. « Non, j'ai peur de lui. Tu vois, tu m'avais dit que ça ne pouvait pas exister, les esprits sans corps, et moi je t'avais cru. » Aélénor le prit sur ses genoux et lui caressa les cheveux. « Je suis désolée de m'être trompée, Artus. J'étais sincère, je pensais vraiment que cela n'existait pas. » Mais je l'ai senti aussi, et il m'a fait peur à moi aussi. Alors nous devons trouver un moyen de devenir plus fort que lui, et ça, c'est Iraine qui peut nous y aider. On ne pourra jamais y arriver, cria Artus, et son angoisse se répandit alors en sanglots inarticulés, ininterrompus, qui faisaient tant de peine à voir qu'Aélénor se sentit soudain presque aussi angoissée que lui. Elle parvint cependant à dominer son malaise et à le bercer, en lui chantant une chanson douce qui résonna longtemps dans le paisible péristyle. Au début, le chant s'entendait à peine sous la force des sanglots, et puis, peu à peu, il prit le dessus, et les sanglots cessèrent. « Il n'est pas assez fort pour supporter ses visions, » dit Iraine à voix basse, tandis qu'Artus s'était endormi. « Il est très fragile, » dit Aélénor. « Mais il est très fort, » dit Iraine, « et nous aurons tous besoin de lui avant qu'il soit longtemps. » Aélénor versa une larme, une seule larme de compassion maternelle. « Artus a un frère jumeau, » dit-elle à Iraine, sans savoir bien pourquoi elle la mettait dans cette confidence. Les frères sombres l'ont enlevé à sa naissance. Iraine fronça les sourcils. « Un livre et un bébé, » murmura-t-elle, comme s'il s'agissait de pièces d'un puzzle incomplet. « Un livre, un bébé et une cité hantée, » ajouta Aélénor.